Vous êtes bien installé, ça va comme vous voulez. Oui.
Ben, ça me gêne un peu les genoux.
Ah oui, la prochaine fois, on prendra un autocar.
Ben, il y a intérêt parce que je changerai pour mes genoux.
Semaine, médias d'autrefois, rediffusion aujourd'hui de l'émission de ce 16 mai 2016. Jean-Yann, l'iconoclaste.
Mon dieu à moi, c'est le dieu de Socrate, de Franklin, de Béranger et de Voltaire. Aussi je n'admets pas un bonhomme de bon dieu qui se balade dans son parterre, une canne à la main, qui loge ses amis dans le ventre des baleines et qui meurt en poussant un cri pour ressusciter trois jours plus tard. Chose absurde en elle-même, et diamétralement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre en passant que les prêtres ont toujours vécu dans une ignorante turpitude où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations.
Pour son compère Claude Chabrol, Jean-Yann était entré aisément dans la peau de Monsieur Homais, le pharmacien de Madame Bovary. Il adorait ce genre de personnage qui proférait des âneries avec une grande sûreté dans la voix. Dans « Nous ne vieillirons pas ensemble », il n'eut pas non plus beaucoup d'efforts pour incarner le macho odieux. « T'es qu'une fille de concierge, barre-toi » jetait-il à Marlène Jobert, repliée dans son coin. Ce fut un triomphe. Les années de l'après-guerre, Fernand Reynaud et Bourvil, souvenez-vous, avaient pu faire rire en jouant la carte de la veulerie ou de la bêtise, mais sans jamais inquiéter les spectateurs. Yann, lui, était le contemporain, sous Pompidou et Giscard, de la grande bouffe du pognon et du divertissement de masse. Rouflaquette surmontée d'une casquette, Ray-Ban sur le nez, main fixée au volant d'une puissante cylindrée, il incarnait une nouvelle suffisance contemporaine. Peut-être n'a-t-il pas beaucoup aimé ce métier d'acteur, qui à la fin de sa vie fut le seul qu'il exerçait encore. Auparavant, il avait été un extraordinaire touche-à-tout, auteur de sketchs et de chansons, amuseur à la radio et à la télévision, réalisateur, producteur, mais il avait voulu une vie de grand seigneur alors qu'il avait une vocation d'artisan. Il fut emporté par la grande spirale du cinéma. Comment le lui reprocher puisque la radio qu'il avait tant aimée et la télé s'étaient évidemment refusé à lui accorder l'indépendance.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Mais direz-vous, pourquoi diable une marche de l'histoire autour de Jean-Yann ? Alors d'abord, il y a une explication circonstancielle. Une soirée lui est consacrée sur Paris Première avec un documentaire de Philippe Gardel qui publie par ailleurs un recueil de ses textes au Cherche Midi et Lina, de son côté, édite une anthologie des sketchs de Jean-Yann. Mais il y a une explication de fond. Jean-Yann a pratiqué allègrement le déplacement des temps et on sait que l'anachronisme bien employé peut être très fécond. Ainsi, dans son dernier film, Liberté, Égalité, Choucroute, constatant que Louis XVI était devenu un roi médiocre, mais un excellent serrurier. Il avait imaginé qu'échappé de Paris, il réussissait à ouvrir la porte d'or de Bagdad et montait non pas sur l'échafaud, mais sur le trône du calife, que le Proche-Orient, ayant ensuite de mal en pis, s'explique plus aisément. Et cette course cycliste de 1815, dont on va entendre des extraits, il l'a restituée avec Jacques Martin pour l'émission de télé 1 égale 3. Est-ce qu'elle ne remet pas le hasard au centre de l'événement de Waterloo, alors que trop d'historiens y ont vu surtout la fatalité ?
Ce matin, départ de la quatrième étape du premier tour d'Europe cycliste Iéna-Waterloo. Quatre hommes se sont échappés.
À combien de minutes ils sont les Anglais ?
1 minute 15 au dernier pointage. Cambronne fait le forcing, je prends ta roue.
Ah, il est marrant. Fait le forcing, je prends ta roue. Nous, on se crève, on lui coupe le vent, on fait tout le boulot. Et saisi, il arrive à l'étape près comme un gardon. Excuse-moi. Alors à lui le maillot jaune, à lui les bouquets de fleurs, à lui les bibis, à lui les photos, pardon.
Tais-toi, Cambronne, dis tout le savant, sinon bon contrat, hein. Alors ferme-la et pédale.
Oh, je les vois, ils nous reviennent dessus, c'est Wellington qui les ramène.
Oh, les salauds, ils nous rattrapent. Enfin, d'impro, ça s'est jamais vu qu'on se fasse battre par les Anglais, c'est nous, quoi. À combien on est de Waterloo ?
2 kilomètres, on fonce. Oh, là, dis donc, c'est dur, hein.
Encore un petit effort.
Masséna. Ouais. Passe-moi ton bidon. Tu bois trop, Murat, ça va te couper les pattes.
À combien on est maintenant ?
On a bien 2 minutes sur le temps, hein.
Ça, on ralentit.
Oh, crois-moi, Napo, on devrait pousser.
Oh, la tactique, c'est moi, laissez-moi faire, hein. On peut pas partir à 4, il faut qu'on se regroupe. Murat, où sont les autres ?
Bah, Marceau, il est en queue, il a cassé son guidon. Et Grouchy doit être dans le peloton.
Eh bien, figurez-vous qu'en 64, cette pochade a déclenché un tollé. Le prince Murat, par exemple, a considéré que c'était une injure au roman napoléonien. Et peu après, 1 égale 3 a été interrompu. Il faut dire que la petite boutique foraine que Jean-Yann avait installée d'abord au cabaret et qui, ensuite associée au nom de Gérard Cyr, son grand frère, producteur comme lui de sketchs et de chansons, avait fait le marché des radios, était bien fragile. Aujourd'hui, les animateurs de radio, ils aiment cumuler la radio plus la télé. À l'époque, Jean-Yann n'avait pas d'autre choix que d'alterner. Un moment, c'était d'ailleurs les plus longs moments, il était sur l'antenne de RTL, puis il gênait, alors il passait sur Inter où il embarrassait, et Europe le repêchait. En 1969, la télé publique a eu l'idée de demander comment il se passait le mistigri aux trois patrons de radio de l'époque, Dordain d'Inter, Farran de RTL et d'abord Siegel d'Europe.
C'est vous, je crois, Maurice Siegel, qui le premier avait connu.
Les bons bâtiments de la radio.
Que faisait-il à l'époque chez
la
vous?
La même chose que moi.
C'est chez vous ensuite, Jean Farran, qu'il est allé.
Oui.
Que faisait-il?
Il faisait la même chose que chez Siegel.
Et chez vous.
Il continue.
Et toujours la même chose.
Oui. Enfin, c'est à moi qui coûte le plus cher.
Ah, forcément, parce que
le SMIC
augmente. À chaque fois qu'il change de station, il se fait augmenter.
Oui, moi j'étais content d'avoir les directeurs là parce que d'abord, ils me rendent service quand l'actualité n'est pas riche. C'est-à-dire quand on ne peut pas taper sur un certain nombre de sujets parce qu'il ne se déroule rien, on tape sur la direction. Ça, c'est un moyen facile de faire des effets. Cela dit, je voudrais bien qu'on... Parce qu'on n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé des problèmes que je posais. Et je sais bien quel est le courrier que je reçois. Je sais bien ce que me disent les gens. Je sais bien comment on m'insulte et dans quelle mesure on m'insulte. Mais on me dit souvent, j'ai écrit au directeur. Alors, je voudrais savoir ce que... reçoivent comme courrier quelles sont les réactions au niveau de la direction, parce que finalement, moi je reçois des lettres isolées, des pétitions, des choses d'associations familiales ou culturelles, ou etc. Mais il y a également du courrier qui arrive à la direction. Comment est-ce qu'on fait quand on est directeur pour ne pas me foutre à la porte immédiatement?
Moi je crois que ce n'est pas propre à Jean-Yann. Je veux dire, prenons un exemple. Lorsque nous avons passé pour la première fois le Gorille de Brassens, nous avons reçu un flot de lettres de protestation. Eh bien, il est évident que. Entendant Jean-Yann, certaines fois, des auditeurs ont protesté. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à son humour.
Oui, moi je dois dire qu'à France Inter, il y a 50% du courrier pour Jean-Yann, 50% du courrier contre Jean-Yann, et pour moi, c'est ça le succès.
En fait, quand il lui arrivait de rejoindre l'ORTF, Jean-Yann marchait avec précaution. À l'époque, il était des maisons où il fallait chausser des patins en entrant, afin de ne pas abîmer les parquets.
Étant donné que j'avais été pendant très très longtemps, n'est-ce pas, sous-fifre dans une station, quelque peu inféodé, on m'a trouvé tellement bien qu'on m'a pris directement à l'ORTF comme valet du pouvoir. D'ailleurs, je signale que tous les gens qui travaillent à l'ORTF sont les laquais de l'impérialisme. J'ai reçu une lettre qui me dit « Monsieur Yann, je me permets très humblement de vous faire remarquer que vous êtes, comme le dit Monsieur Clément Ledoux, un valet du pouvoir. » Permettez-moi encore de vous dire tout le mépris que j'ai pour vous d'être passé à l'ORTF. Eh ben voilà, les enfants, c'est fait. Et la conclusion de Clément Ledoux disant que vous étiez un valet du pouvoir est trop faible. Voilà, je suis donc un valet du pouvoir. Mes camarades comédiens et moi, qui sont des laquais de la faction, complètement inféodés, nous sommes actuellement filmés, n'est-ce pas, pour une émission de télévision. Par des caméramans du pouvoir qui sont là et qui nous filment. Et nous sommes ici devant une cabine vitrée qui a été placée par des vitriers du pouvoir, dans un studio dont les murs ont été peints par des peintres du pouvoir. Nous avons les pieds sur une moquette posée par des moquettistes du pouvoir. Nous avons des techniciens du pouvoir organisés avec des disques impérialistes et du pouvoir qui sont diffusés. C'est de la musique du pouvoir. Et sur les ondes du pouvoir.
Qui Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomicelle, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pain naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomicelle. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net. Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Allez,
jamais! Sortons de cette bande immédiatement!
Oh, bah faudrait savoir ce que vous voulez, quoi. Pour une fois que j'ai l'esprit station, il s'agit bien de parler du bon Dieu.
Il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'axer nos programmes sur Dieu. Vous vous moquez de nos clients, Gerbert.
Ah ouais, les clients, les marchands du temple, hein.
N'allez pas à discuter, je vous ordonne de couper ça.
Bah, je vous emmerde.
Et moi, je vous trouve grossier, Gerbert. Et je vous fous la porte.
Ah non. Non, non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans ou bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque, le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot.
C'était un extrait de Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est le premier film de Jean-Yann en tant que réalisateur, sans succès le moins incontesté. La critique anti-gaulliste qui détestait les radios tenues par le pouvoir a beaucoup applaudi. Jean-Yann tirait de sa vie un bilan autobiographique, abandonné en race campagne par ses patrons qui faisaient assaut de lâcheté et de démagogie. Je le cite, il obtenait pour partir de grasses indemnités. C'est cette année-là, 1972, que Jean-Yann change vraiment de braquet. Je vais faire mon beurre en crachant dans la soupe au cinéma. Le cinéma qui va lui permettre, pense-t-il, d'entretenir son autonomie, de nourrir aussi sa Porsche rouge. Il faut dire que c'est une haute période pour l'automobile dans l'usine forteresse de Billancourt, à Renault-Flins, à Simca Poissy, à Citroën, Aulnay, à Peugeot Sochaux. L'immense foule des ouvriers fabrique les modèles à la chaîne.
Ô Seigneur, notre Père Tout-Puissant,
Seigneur,
écoutez la prière du pauvre blanc. Autrefois le blanc était heureux dans son usine, le soir quand il rentrait dans son deux pièces cuisine, il chantait des chansons de Delmet.
Les noirs sont venus avec leurs trompettes. Quand il les a entendus, le blanc a perdu la tête. Comme à Jéricho, les murs se sont écroulés. Et le blanc a constaté qu'il n'avait pas de tempo.
Oh,
vous qui êtes plein d'amour, le pauvre blanc sait qu'un jour, enfin vous aurez pitié. Et que vous lui accorderez le tempo tant désiré. Pour qu'il puisse vous louer et chanter un éternel Blanco spirituel.
Seigneur,
Seigneur, Seigneur.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Yann de retour, une soirée Paris première, un DVD de Lina, un livre de Philippe Gardel aux éditions du Cherche Midi. C'était une chanson, il faut toujours souligner le rôle de Gérard Cyr, co-écrite par Jean-Yann avec Gérard Cyr. Oui, si tout d'un coup, le système où un peuple borné et dominé par de plus malins que lui prenait fin. C'est pas que Jean-Yann craigne la révolte des détenteurs de 4L à crédit face aux propriétaires de Porsche, mais un grand dérèglement peut toujours se produire dans le monde. Les Noirs peuvent prendre le pouvoir. En 74, quand commence à se profiler la crise internationale dont nous ne sommes pas sortis, il a l'idée d'imaginer une occupation de la France par les Chinois. C'est Marcel Dassault qui débloque les fonds pour faire le film « Le bagout de Jean-Yann l'épate » et sa compagne de l'époque, Nicole Calfon, le séduit. Il a envie de la mettre en une de son hebdo « Jour de France » en costume Mao, bien sûr. Dans le film, le haut commissaire occupant siège aux Galeries Lafayette. Jean-Yann a anticipé sur le goût que les Chinois auront un jour pour les grands magasins parisiens et le haut commissaire annonce deux mesures décisives.
Français s'épuisent trop dans fornication. Et il perdait ses forces physiques et intellectuelles, n'est-ce pas? Et attrapait cette effroyable maladie de la pisse brûlante. Donc, pour régénérer le peuple français, nous interdire fornication.
Excellence, nous avons eu 5 républiques, aucune ne s'est penchée avec autant de sollicitude sur le peuple français que la vaillante République populaire chinoise.
Ce n'est pas encore fini, monsieur le gouverneur. Le plus grand danger pour le peuple français, il réside dans cette effroyable hécatombe de la route.
Il est vrai, Excellence, que les Français conduisent comme des cons.
Ils sont complètement asservis par voiture. Donc, notre haut commissariat a décidé de supprimer totalement les automobiles. Et cette destruction, elle a reçu comme nom Opération Dragon Long.
Alors, inutile de dire que dans les Chinois à Paris, ni l'un ni l'autre de ces interdits ne réussit. En réalité, l'occupant va faire alliance avec les commerçants du stupre et la voiture continuait d'attiser le désir et d'anesthésier la volonté. Le film, c'est un échec financier, mais Jean-Yann a trouvé la justification dès le tournage. Nous avions disposé, dit-il, 500 soldats chinois garde Austerlitz et des grandes photos de Mao dans les travées des Galeries Lafayette. Eh bien, personne ne s'est étonné. Le monde peut s'écrouler. Les Français ne bougent pas du moment qu'ils ont une femme dans leur lit et de l'essence dans leur bagnole.
Je me rappelle le dernier jour où je posais un pied sur le sol, le dernier jour où je marchais piéton au milieu des automobiles. La foule des voitures me cernait, coulait autour de moi, m'encerclait de sa visqueuse reptation. J'apercevais derrière les vitres les yeux exorbités des conducteurs errants. Autour de moi, les automobiles formaient une mer de toit, un océan de capots où déferlaient des vagues de chrome. Au loin, très loin, j'apercevais brillant comme un ciboire dressé au centre d'une messe nègre les chromes de cette voiture où je ne songeais plus qu'à me précipiter. Je courus autour de moi. Comme des traits sauvages lancés sur la gazelle, comme des flèches vibrant vers la cible, comme des banderilles vers le cuir du taureau, passèrent en me frôlant mille et mille pare-chocs. Et pourtant j'arrivais. Je fus soudain près de mon automobile, je la touchais. Je sortis fébrilement mes clés, formai les 12 lettres de la combinaison permettant d'ouvrir ma portière et pénétrai dans l'habitacle. J'étais sauvé. Mais pour combien de temps ?
La domination passe encore par la voiture. En 67, Jean-Yann a tourné dans Weekend, avec une gigantesque scène d'embouteillage, le film de Jean-Luc Godard. En 69, Paul, le garagiste tyrannique de Que la bête meure, annonce toujours d'un coup de klaxon son entrée dans l'arène familiale, où il sème chaque jour la terreur. Mais nous avançons un peu dans le temps. René Dumont se présente à la présidentielle, Brice Lalonde au municipal à Paris. Il reçoit en buvant du thé vert et prône les déplacements doux. La libération, s'il y en a une, passerait-elle par le vélo ?
Le combat prolétarien doit passer par la lutte contre la pollution. Moins de voitures et davantage de vélos. Voilà ce que doivent réclamer les camarades conscients des dangers que court actuellement la planète.
Je passe la parole à notre camarade Rosales qui va vous expliquer comment se déroulera notre action.
En résumé, mercredi prochain, vous viendrez tous à vélo à la manifestation populaire afin de lutter massivement contre la pollution.
Euh,
je ne dirai pas votre nom parce que vous exercez une profession qui, finalement, est une profession d'un genre un peu particulier et vous tenez à garder l'anonymat.
C'est exact, oui.
C'est ça. Alors, je crois qu'il faut dire tout de suite votre profession. Elle est bizarre, je ne croyais pas que ça existait. Finalement, vous êtes très très nombreux à l'exercer. Vous êtes...
Je suis manifestant professionnel.
Voilà. D'abord, il faut me dire où et pourquoi vous êtes manifestant professionnel. Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées revendicatrices, qui voudraient protester,
oui,
et qui, finalement, n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils travaillent. Alors,
C'est notre but.
Il y a des tas de gens qui disent, moi, je ferais bien la grève, mais c'est embêtant parce qu'il faut que j'aille au boulot. Alors, et là, c'est la même chose pour les manifestations.
Nous devons nous trouver dans tous les endroits où il y a groupe.
Oui.
Vous voyez, dans toutes les petites réunions, absolument partout.
Vous faites de la petite réunion de 5-6 personnes jusqu'au grand meeting à Charletti.
C'est ça, nous essayons au maximum de bourrer.
D'accord, très bien. Alors, pour être manifestant professionnel, il faut faire des études.
C'est ça.
C'est un cycle de 2 années.
C'est ça, vous avez un cycle de 2 années d'études.
Il y a 2 années d'études, qu'est-ce que vous faites pendant la première?
Mais pendant la première, forcément, ce sont des cours théoriques, naturellement. Oui. Vous avez apprentissage et confection de la banderole, confection de pancartes. Oui. Vous avez aussi apprentissage de slogans,
oui,
tels que « rehausser les salaires »,
oui,
ou encore « parle à Limon, ma tête est malade ».
Exactement, oui, enfin, toutes ces choses qu'on se doit de connaître au cours d'une manifestation.
Ça,
c'est uniquement la théorie.
Ça, c'est la théorie.
Et la deuxième année, c'est les travaux pratiques.
C'est ça, la deuxième année, c'est carrément la pratique. Alors, vous avez formation de cortège, des formations de cortège. Vous avez des stages dans les formations politiques de gauche et de droite,
oui,
n'est-ce pas? Et vous avez lancement du pavé.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'imagine que vous avez également protection contre la matraque.
Vous m'avez coupé la parole, oui, mais c'est exactement ce que je voulais dire.
Est-ce que vous avez utilisation du couvercle de poubelle
Surtout.
Choses comme ça.
Surtout la poubelle. Et vous avez aussi apprentissage de confection de cocktails Molotov.
Ah oui, c'est intéressant.
C'est très important.
Je suppose que le port du casque est obligatoire.
Enfin, il est obligatoire.
Je dis ça pour les parents qui voudraient que leurs enfants deviennent manifestants professionnels. C'est au départ. Pendant tous les exercices pratiques, c'est pas dangereux, dangereux.
Pas du tout. Non.
Et alors, est-ce qu'en fin d'année, vous avez des diplômes?
Ah oui, alors, en fin d'année, ça, bien sûr. En fin d'année, ça récompense, bien sûr, les meilleurs élèves.
Il faut être quand même juste, et on ne peut pas parler des contestataires et parler des étudiants qu'on a quelque peu attaqués, si on n'attaque pas également ceux qui sont, si j'ose dire, de l'autre côté de la barricade. Et Daniel Prévost, maintenant, va intervenir avec le poème qui fait suite ou qui fait opposition, selon le point de vue duquel on se place.
Si tu sais te servir, mon fils, d'une matraque, ce qui, dis-toi le bien, est parfois délicat, si un lazzi moqueur ou un rire te braque, si tu ne lis jamais Mauriac, Gide ou Kafka, si tu sais obéir et marcher sans comprendre, si tu peux harceler le conducteur d'auto, le rendre fou, le piétiner et le pourfendre, comme si de Satan il était le suppôt. Si tu peux, sans trembler, presser sur la gâchette, et si tu peux viser sans jamais y penser. Si tu peux, sans rougir, mais avec insolence, tutoyer un vieillard suspect d'on ne sait quoi. Et si tu peux gifler au cours d'une séance, l'homme qui devant toi a peur et reste quoi. Si... fort de ton pouvoir et de ton beau costume, tu peux brimer les gens et leur serrer la vis. Si ton cœur n'est que fiel, colère et amertume, alors tu seras flic, mon fils.
Vous aurez remarqué l'orgue encore. Au vrai, Jean-Yann renvoyait tout le monde dos à dos. Il avait déjà cette formule avant Coluche. On ne parvient plus à faire la différence entre la politique et les variétés. Il n'y a plus que des comiques partout. Et maintenant que les classements sur l'échiquier relèvent davantage de la loufoquerie que de l'idéologie, on pourrait dire qu'un yanniste de gauche, c'est un anarchiste de droite. Quant au yanniste de droite, il est carrément libéral-libertaire. Reste le terrain le plus solide. Jean-Yann, comédien. 3 films avec Chabrol, 2 avec Godard, ce n'est pas rien. Il mettait tant de distance avec ses personnages qu'il prétendait que jouer n'était rien. Ce rôle de celui qui prétend ne pas savoir ce qu'est un rôle, il l'a interprété à la perfection dans « Nous ne vieillirons pas ensemble ». La scène, ou dans une voiture, toujours, il rejette Marlène Jobert, il l'aurait joué la paupière tombante en découvrant à mesure son texte posé sur ses genoux. Ensuite, au moment de la présentation du film au Festival de Cannes 1972, Il aurait snobé Piala et l'équipe. Puis il aurait reçu, avec la plus grande indifférence, le prix d'interprétation masculine dans une soirée de palmarès qu'il n'avait évidemment pas voulu honorer de sa présence.
Vous êtes actuellement sur la croisette un des personnages dont on parle le plus et que l'on voit le plus. Ça vous fait quoi ?
Non, qu'on voit le plus, sûrement pas, parce que je suis plus au boule dans l'arrière-pays, ou en tout cas dans la place la plus calme du pays, que sur la croisette. On ne me voit pas beaucoup.
Le festival ne vous intéresse pas ?
Non, le festival en soi, non.
Pourquoi ?
Je trouve pas ça intéressant, côté médailles, décorations, flash, photographe, starlette qui se trempe les pieds dans l'eau et ça.
C'est quoi pour vous? C'est une foire? C'est guignol?
Oui, c'est guignol, c'est n'importe quoi. Je suis allé comme ça tout à fait incidemment dans le hall du Palais des Festivals, le soir de la présentation du film de Piala. Et j'ai regardé la tronche des types qui rentraient assister à ça. Et j'en connaissais pas un seul. Je les ai jamais vus ni dans la radio, ni dans le cinéma. Je sais absolument pas qui c'est. Alors je crois qu'il n'y a que les amis des amis à qui on refile les cartons pour aller dans ce festival.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je sais pas.
Tu sais pas. Alors tu vas encore chercher du boulot dans les bureaux, mais depuis 6 ans, combien t'en as fait? Moi, je sais pas, à force d'aller t'attendre partout, j'ai fait tous les quartiers de Paris. Tu veux pas chercher quelque chose de plus intéressant, non? Non, t'es là, t'es molle, et puis t'attends. Tout ce que j'essaie de faire pour toi, c'est la même chose. J'ai essayé de te faire travailler dans le cinéma, ben ça marche pas. Chaque fois, y a rien à faire. Rien ne t'intéresse. Tout ce que t'es, c'est une feignante, c'est tout. T'es une bonne feignante, voilà. Tu laisses tomber tout de suite. Ah si, la seule chose qui te plaît, cover girl. Ah, voilà. Madame veut être cover girl, avec le pif que t'as et tes taches de rousseur. Hein. T'es trop petite et t'es trop moche. Alors mets-toi une bonne fois dans la tête qu'il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant, mais pas dans cette catégorie-là. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge.
Prix d'interprétation masculine. À Jean-Yann. Le film « Nous ne vivrons pas ensemble » de Maurice Piala, France. Je lui dirai.
Allez, après 79, le public chic et les critiques verront moins Jean-Yann pour échapper au fisc. Il a obtenu le statut de résident américain en séjournant à Los Angeles plus de la moitié de l'année. Il ne quitte plus le collier de l'acteur. Il se plaît dans le rôle de père de deux fils. Quand il n'est ni à Los Angeles ni en tournage, il vit dans la Brie champenoise, auprès de sa vieille mère. On raconte que le soir, il écoute des disques de Bach, l'orgue, toujours. Il meurt dans ce village de Morcin, en plein festival de Cannes, en mai 2003. Au pied de son lit, ce petit mot griffonné, la peur de vivre, ça se soigne en vieillissant. Vers 20 ans, on a souvent peur de vivre. Vers 70, on a peur de mourir. On cherche midi et au seuil une anthologie de textes. Je reviens et puis une anthologie de sketchs. C'est un DVD de Lina.